Je vous propose, sans plus attendre, que nous entendions maintenant Christine Barthes, du musée du Quai Branly, qui a été commissaire de l'exposition À toi appartient le regard. Christine Barthes, vous êtes responsable de l'unité patrimoniale des collections photographiques du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et je vous passe maintenant la parole. Nous prendrons ensuite l'ensemble des questions pour conclure cet après-midi.
Merci pour cette invitation. Alors, donc, je vais revenir sur cette exposition je vais vous proposer de la reparcourir rapidement ensemble en revenant sur quelques points clés, quelques enjeux qui se sont dessinés pendant la préparation et puis pendant l'exposition elle-même. Alors, c'est vrai qu'on a effectivement parlé de visibilité et d'invisibilité. J'ai beaucoup apprécié les communications, notamment ce matin, sur la question du genre, et j'ai trouvé beaucoup d'écho avec les questions qui se posent sur mes centres d'intérêt et de recherche. Cette exposition, donc, elle a eu lieu entre elle a ouvert à la fin du mois de juin, elle devait ouvrir à la fin du mois de mars, et évidemment, l'ouverture a été décalée en raison du Covid. Elle a finalement eu lieu dans une période pas trop mauvaise, puisqu'elle s'est ouverte le 30 juin, et elle a dû se terminer 3 jours plus tôt que la date prévue à la fin octobre avec le nouveau confinement. Donc, c'est vraiment une exposition qui a trouvé sa place pile entre deux confinements. Qui a peut-être pas trouvé tout le public qu'elle aurait dû, mais qui a quand même été assez visitée. C'est une exposition qui a été montée, qui a demandé 4-5 ans de travail en fait, mais qui se situe vraiment dans le droit fil des préoccupations du musée, qui se sont dessinées depuis l'ouverture en 2006, où on s'est posé la question de la visibilité et de l'étude de la création contemporaine mondiale. Et par mondial, j'entends le monde entier, et pas seulement comme ce qu'on voit le plus souvent, ou ce qu'on connaît le mieux, en tout cas en Europe, qui est la production des artistes européens ou états-uniens. Donc, depuis 2006, le musée du Quai Branly a essayé de mettre en place, en fait, toute une série d'actions pour essayer de mieux connaître cette création, spécifiquement par le biais de la photographie, puisqu'on partait d'une collection historique assez ample, et qu'on a décidé à ce moment-là de se pencher d'un peu plus près sur cette création photographique internationale, puisqu'on a fait le constat que finalement, dans ce paradoxe de ce monde mondialisé, on pense que les communications, que les transports sont assez faciles pour aller d'un endroit en autre. Et en fait, quand on creuse un peu la question, on s'aperçoit assez vite qu'on connaît en réalité très mal ces productions, qu'on manque beaucoup d'outils pour mieux les connaître. Et donc, depuis 2006, on a mis en place un programme notamment d'acquisition. Mais aussi un programme de résidence qui nous permet de soutenir des travaux de photographes du monde entier, de soutenir ce travail, mais aussi de le produire, de le faire entrer en collection. Donc ça nous a permis de prospecter, de voir des choses et de creuser la question de façon assez approfondie. On avait aussi mis en place, à partir de 2007, la Biennale Photoquai, qui a eu 5 éditions jusqu'en 2015, et qui visait justement à donner une meilleure visibilité à des productions internationales vraiment mal connues. Mais finalement, cette biennale, qui se situe à l'extérieur du musée, dans l'espace des bords de Seine, des quais, permettait de montrer certes des productions, mais d'une façon un petit peu panoramique, comme ça, avec un but qui était finalement de montrer justement le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui se produisaient, mais qui en même temps subissaient le revers du panoramique, c'est-à-dire le fait qu'on ne pouvait pas creuser la question très attentivement et notamment monter un vrai projet curatorial. Donc, à partir de 2015, où on a stoppé justement la production de cette biennale Photoquai, la direction du musée m'a demandé de penser à un projet qui se ferait cette fois dans le musée, à l'intérieur, et donc un projet d'exposition. Et je le dis parce qu'il y a un lien finalement assez important, le fait de tout d'un coup, après avoir passé quand même des années de recherche sur ces artistes, sur ces photographes, d'avoir la possibilité de montrer les choses en vrai, dans l'espace du musée et dans le grand espace du musée, puisqu'on occupait les 2000 mètres carrés du Red Jardin, ça a constitué pour moi vraiment une bouffée d'air. Et ça peut expliquer une partie des choix que j'ai faits sur certaines œuvres notamment. Donc merci de me donner la parole et de me la donner dans ce cadre des cas pratiques, puisque effectivement moi j'ai du mal à faire autrement que parler à partir des images. Donc on va balayer ces images. Je reviens brièvement sur ce long titre. À toi appartient le regard et la liaison infinie entre les choses, puisque c'est un titre qui agit comme une série de mots-clés, en fait, qui vont être déclinés dans l'exposition. Mais c'est une citation, tiens, j'ai oublié les guillemets, une citation d'un écrivain allemand qui s'appelle Ludwig Ulsen, une citation donc, qui date du 19e siècle, et qui parle de la façon dont le regard agit dans la construction de la vision, dans la construction d'un paysage. L'auteur parle d'une traversée qu'il fait dans un paysage et dans un paysage étranger, et comment, en découvrant les chutes du Rhin, tout d'un coup, il s'aperçoit de ce paysage magnifique et il analyse la façon dont son œil fonctionne. Et voyez que ce titre en deux parties, « À toi appartient le regard » et « La liaison finie entre les choses », ça m'a permis de constituer aussi une adresse directe au visiteur en lui disant « Bon, à toi appartient ce regard, à toi de jouer », ça voulait dire ça aussi. Et « La liaison infinie entre les choses », c'était une façon de signaler qu'on avait parlé d'associer des choses et les associer de façon infinie. Donc, regarder, bien regarder, et puis aussi décaler son regard et décentrer les choses. Donc, pour avancer concrètement dans l'exposition, j'ai fait le choix en ouverture de montrer une œuvre très spectaculaire de Samuel Fosso, qui travaille avec l'autoportrait, en se photographiant lui-même depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, avec une œuvre tout à fait spectaculaire qui a été montrée là pour la première fois, qui s'appelle 666, et qui est constituée de 666 autoportraits. Donc, il fallait concevoir vraiment un espace spécifique pour cette pièce, et ça m'a paru important tout de suite de la mettre en entrée, de façon à ce que le vertige dans lequel est plongé le visiteur dans cette grande spirale de visages qui lui font face, permettait de mettre au premier plan, de mettre de façon évidente dès le début l'accent sur le corps du visiteur, la question de la perception, comment le visiteur tout d'un coup, dès l'entrée de l'exposition, était face à quelque chose de complètement inattendu, mais aussi quelque chose de très simple à voir, c'est-à-dire qu'on est face à face avec un visage qui nous regarde. Donc c'était une bonne question, une bonne façon pour moi de poser tout de suite la question de la perception et la question du vis-à-vis, la question de l'altérité aussi. Avec après ce préambule, on arrivait dans une première partie qui était là aussi centrée sur cette question du point de vue, avec des travaux ici d'une artiste du Costa Rica qui avait travaillé en Argentine, une artiste mexicaine qui avait travaillé en Islande, donc avec toutes les deux des questions sur l'acte de photographier, qu'est-ce que c'est que de découper un morceau du monde, qu'est-ce que c'est que de cadrer dans un viseur une portion du monde, qu'est-ce que ça signifie. Dans cette partie-là était montré aussi le travail de José Luis Cuevas, un artiste mexicain qui était parti lors d'une résidence, justement les résidences photographiques du musée, parti au Japon. Et qui nous l'a proposé un regard assez personnel où il essayait d'aller à la rencontre de l'univers littéraire de Kenzaburo Oe. Donc là aussi un décentrement volontaire et assez difficile à réaliser de la part du photographe. Le choix d'exposition visait à exposer ces 26 artistes qui étaient choisis non pas en raison de leur diversité ou de leur origine géographique, mais sur les œuvres vraiment ou sur leur parcours. Et de ne pas créer non plus de séquences trop étanches entre des jeunes artistes, des artistes plus reconnus, et au contraire essayer de provoquer des relations assez fécondes entre ces différents univers. Donc on pouvait avoir ici le travail de la grande photographe sud-africaine Jo Ratcliffe, qui coexistait avec le travail d'un tout jeune photographe thaïlandais qui s'appelle Lakhia Thirikajorn, avec aussi le travail de Guy Tilim, autre photographe sud-africain, lui aussi bien connu. Donc, on arrivait d'emblée dans cette question de comment on regarde, qu'est-ce que ça signifie de poser son regard à travers un appareil photo, de choisir ce qu'on regarde et de cadrer, de garder une image de ce qu'on a vu, chose qu'on voit très bien dans le travail de Guy Tilim. Et on abordait ensuite la deuxième partie, qui était une deuxième partie assez courte en fait en termes de place dans l'exposition, mais qui était une partie importante puisqu'elle traitait de l'image comme un modèle, comme un support de projection, comme un support d'identification aussi. Et on avait le travail très important de Santumu Fokang avec cette œuvre qui s'appelle The Black Photo Album. Et Santumu Fokang, qui est un artiste sud-africain qui est juste décédé en début d'année 2020, avec cette œuvre qui avait une importance vraiment grande pour moi et dont j'avais demandé au scénographe de lui donner une grande importance dans le parcours. Et voyez avec cette injonction, là aussi, comme on l'a vu dans le titre, avec « à toi », avec cet ordre quasiment qui nous est donné, « look at me »,« regarde-moi », avec ce diaporama où il reproduit des images du début du XXe siècle de la bourgeoisie noire sud-africaine, image qui avait été devenue... qui avait été oublié et qui était devenu en fait assez invisible dans notre espace mental commun. Et cette pièce a eu un vrai retentissement sur les visiteurs. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans l'exposition à observer comment les visiteurs regardaient ou passaient vite dans certaines œuvres. Et celle-ci, clairement, avait un pouvoir de fascination, d'attraction qui fonctionnait très très bien. Quand je parlais de la liaison infinie entre les choses, l'idée c'était aussi de mettre des œuvres en rapport, et notamment des œuvres qui n'avaient jamais été montrées ensemble. Ici, une vue pendant l'accrochage de la série African Spirit de Samuel Fosso, donc le même artiste qu'on a vu en introduction, avec une série là qui date de 2008 et que le musée avait acquis en 2010, je crois, donc il y a plus de 10 ans maintenant, qui est une série vraiment importante qui s'appelle African Spirits, où Samuel Fosso, toujours sous le biais de l'autoportrait, rejoue des figures, des grandes icônes noires, que ce soit des figures des luttes pour les droits états-uniens ou que ce soit des grandes figures africaines. Et cette série-là, qui avait été exposée par fragments, a été exposée là de façon plus large, il n'y a pas la totalité des images, mais elle était montrée là, donc en conjonction avec cette pièce de Santumu Fokang qui parlait du rapport au modèle. Et on a entendu évidemment des choses sur le modèle noir depuis ce matin et cet après-midi. Du coup, la présentation de cette œuvre fin juin a rencontré un écho évidemment significatif parce que tout d'un coup, dans le contexte de Black Lives Matter, des visiteurs ont témoigné, m'ont dit « mais alors cette œuvre-là, effectivement, ça veut dire quelque chose ». Et c'était à la fois une conjonction de calendrier, mais c'était aussi la reconnaissance du fait que là, le but de Samuel Fosso trouvait son aboutissement, puisqu'il dit vraiment qu'il a voulu rejouer ses figures pour que ces grandes images trouvent une place dans un musée, et que ces grandes figures importantes de l'histoire noire aient vraiment un endroit de visibilité. Donc elle a trouvé à ce moment-là son public, et elle a trouvé son public à un moment particulièrement significatif. Elle était montrée avec une pièce d'Oscar Muñoz, qui est ce grand artiste colombien qui travaille beaucoup sur la question de la disparition des images. Donc là, vous voyez aussi encore une installation qui parle de photographie, mais sans nécessairement montrer des photographies dans un cadre, avec là la main de l'artiste qui intervient en permanence pour changer l'ordre des images et leur donner les faire disparaître ou les faire réapparaître comme ça de façon indéfinie. Donc, je vais avancer un petit peu plus pour arriver dans la troisième partie. Les images se pensent entre elles. On va aborder là encore plus, je vais dire, la question de la liaison entre les choses avec des œuvres de Camélie, le roman algérien 1, le roman algérien 2 et The Storyteller. Donc ici, des œuvres qui faisaient une part importante au montage, donc au cinéma, à des associations d'images qui permettent de raconter des nouvelles histoires. Et dans ces œuvres, il y avait une œuvre assez importante de ce jeune artiste singapourien, Ori Han, qui combinait une installation, un film, et qui constituait en fait une espèce de leçon, de conférence très, très, très ironique et très brillante aussi, qui avait le don de scotcher les visiteurs. C'est une performance, enfin une œuvre qui dure une heure, mais où si on reste plus de 5-10 minutes, après on peut plus quitter l'œuvre, tellement elle est prenante par la qualité de sa démonstration et aussi la forme avec... ce jeune artiste qui adopte un ton comme ça, très professoral, et qui commence à nous faire un peu la leçon sur le cinéma, sur l'image, sur la mondialisation, sur les rapports de force qu'on peut trouver dans ces images, avec le don de poser des questions complètement inattendues et assez drôles, et en même temps qui captent complètement l'attention. Donc on voit dans ces œuvres-là un ressort important qui s'est révélé important en fait dans l'exposition au final, qui est le ressort de l'ironie et de l'humour. Qui permettent justement de décaler aussi les choses et d'être à un endroit où on n'est pas attendu, pour poser l'autre question plutôt par rapport, plutôt que celle qu'on attendait d'emblée. Donc, une pièce qui a trouvé là aussi un retentissement assez important. Ici, une pièce de Brooke Andrew, grand artiste australien, donc extrêmement connu en Australie, beaucoup moins en Europe, bien qu'il est maintenant une galerie en France, donc on commence à le voir apparaître, qui a travaillé avec toute une série de projections. Une pièce qui a été conçue spécifiquement pour l'exposition, avec un travail en profondeur de l'artiste aussi, à partir des archives filmiques du musée. Donc une façon aussi de reposer un nouveau regard sur ces films ethnographiques, mais aussi ces images d'actualité. Face à cette œuvre, une œuvre très importante de Dean Culley, que je montre rapidement, qui a été une œuvre compliquée à montrer à cause du confinement, puisqu'elle était bloquée aux États-Unis, qu'on a pu la montrer, on a pu la monter en catastrophe 2 jours avant l'ouverture, quand elle a fini par arriver. Donc voilà, maintenant à chaque fois que je la vois, je pense aux conditions dans lesquelles on l'a accrochée, et malheureusement sans l'artiste qui devait être là pour faire l'accrochage. Donc ça a été aussi une constatation très, très triviale de cette crise sanitaire, puisqu'on montrait pour la première fois une exposition qui englobait le travail de 26 artistes. Plusieurs de ces artistes, une dizaine je crois, devaient venir pour l'ouverture. Tout ça a été très bien organisé et tout ça est complètement tombé à l'eau. Peu d'artistes ont vu l'exposition et ça pose évidemment un vrai problème. Mais voilà, cette question de la distance et la distance géographique, on l'a bien expérimenté à ce moment-là aussi, en disant voilà, pourquoi on connaît mal ces œuvres-là, qu'est-ce que c'est que la distance géographique qu'on croyait abolie miraculeusement avec les avions. Non, ça existe, c'est compliqué et ça résiste. Je vois que le temps file, alors j'avance. Avec Diane Tassin, vous voyez que là, on est dans une autre sorte de mouvement des images, une autre forme d'association. Vous voyez qu'entre les deux diapos, les images ont un petit peu changé de forme. On a essayé de respecter le souhait de l'artiste, pendant le temps de l'exposition, de constamment essayer de changer l'ordre des images et de changer les points de vue. Rosângela Reino, grande artiste brésilienne, avec un travail là aussi sur la question de la matérialité photographique. Voilà, quand je disais pour moi c'était une bouffée d'air cette possibilité d'organiser cette exposition, vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment des pièces extrêmement sculpturales et qui abordent vraiment la photographie comme un objet. La photographie ou l'image vidéo dans sa matérialité, parce que oui, c'est des images qui essayent souvent de faire oublier qu'elles sont des images matérielles. Et les artistes savent très bien insister sur cette question-là. Voilà le travail de Carlos Graicoa, grand artiste cubain. Ici, la quatrième partie, Histoire des paysages, qui fait, pour lequel l'œuvre de Carlos Graicoa fait une très bonne transition, puisqu'il dessine dans la matière même du tirage photographique qui est contrecollé sur aluminium, des faux bâtiments et reconstruit des architectures fictionnelles. Donc avec cette question, comment on inscrit l'histoire dans le paysage, comment on peut retrouver des traces de l'histoire dans le paysage, avec ici le travail de Dinh Quy Le, cet artiste vietnamien, sur la question de la collecte du guano aux îles Chinchas au Pérou au XIXe siècle, qui a constitué une ressource énorme pour l'industrie et qui a amené les États-Unis à essayer de s'approprier plusieurs îles où pouvait être collecté ce guano, donc une recherche historique transgéographique aussi. Artiste égyptienne, Eba Amin, avancée vers Mario Garcia Torres, avec un travail sur la question de la preuve en photographie. Est-ce que la photographie peut être une preuve d'un événement? Mario Garcia Torres qui coexistait avec Sami Balogi. Sami Balogi qui est un artiste qu'on voit maintenant beaucoup en France, en Europe, qui a une carrière tout à fait exceptionnelle, avec une œuvre vraiment importante dont le musée a pu faire l'acquisition en 2015, deux ans après qu'elle ait été produite. Et Sami Balogi, c'est un bon exemple de cette longévité, la façon dont on s'intéresse à des artistes depuis longtemps, puisqu'il avait exposé pour la première fois en France au musée du Quai Branly, dans Photoké, justement, dans la première édition, et puis qu'il avait participé à la première édition des résidences photographiques aussi, donc un artiste qui a construit une carrière remarquable et qu'on suit depuis longtemps. Ceci pour témoigner que l'exposition bénéficie de ces recherches anciennes depuis l'ouverture du musée. Gosette Lobondo, toute jeune artiste congolaise, qui a exposé pour la première fois, je crois, en France à ce moment-là, avec un travail produit pendant les résidences photographiques, avec un travail très remarqué qui fonctionnait très très bien, qui captait l'attention des visiteurs, une artiste qui était la benjamine de l'exposition. Et puis pour terminer, la dernière partie qui était là aussi une partie assez courte mais assez dense, qui s'appelait Passage dans le temps et qui revenait sur cette question du rapport au temps dont parlait tout à l'heure Pierre Sangaravelu, pour lequel j'ai fait appel ici à des artistes latino-américains, mexicains, vénézuéliens et colombiens, principalement parce que les artistes en Amérique latine, il y a une antériorité de ce rapport à la colonisation qui donne une réflexion, je trouve, de grande qualité, avec beaucoup de d'amplitude historique, justement, avec le travail de Joshua Ocon, là aussi un travail qui joue beaucoup sur les ressorts de l'ironie, avec une ironie assez grinçante et quelquefois à la limite de la caricature, mais qui permet justement de là encore de poser des questions assez inédites et de repousser un peu les limites de l'interprétation. La question de l'humour, ça pose vraiment la question de la responsabilité du visiteur, là en l'occurrence, qui doit se faire sa propre idée face aux questions quelquefois dérangeantes qui sont posées. Et voilà, je termine rapidement sur ces dernières pièces, avec une dernière pièce qui revenait sur la question du rapport au paysage. qui est d'une certaine façon bouclé avec le titre de l'exposition. Sur la question du géographique, c'était quelque chose sur laquelle à laquelle j'ai prêté attention pour éviter que les artistes ne soient réduits à leur nationalité. Et donc, sur les cartels et dans les fiches biographiques, c'est des informations qu'on a scindées de façon à ne pas réduire les artistes à être des représentants de leur pays. Et donc, on a créé comme ça toute une série de décalages en termes d'informations, mais aussi en termes de parcours de visite pour éviter en fait que le visiteur se trouve face à quelque chose d'attendu. Et donc, il y avait une multiplication de surprises qui permettait de décaler, je crois, le regard qu'on avait sur ces œuvres a priori, et puis de laisser surtout les œuvres au premier plan en évitant d'imposer un discours tout fait sur les œuvres elles-mêmes. Donc, du coup, ça permettait vraiment de donner cette responsabilité au visiteur, de lui donner vraiment un rôle actif, de lui dire « bon, ben voilà, toi, à partir du regard, donc allez-y, traversez et faites-vous votre propre idée ». Et donc, je pense que ça a assez bien fonctionné de ce point de vue-là. Je crois que l'exposition a pu trouver son public. Et j'ai reçu là il y a à peine 2 jours les résultats d'une étude de public, et il y a 2 chiffres qui m'ont vraiment interrogée, parce que j'ai vu que 68% des visiteurs étaient des femmes. Donc j'ai dit à mes collègues, mais est-ce que c'est habituel? Ils m'ont dit non, enfin c'est habituel, la majorité de femmes dans les expositions, mais là on est effectivement 10 points au-dessus de la moyenne, donc je ne sais pas à quoi c'est dû. Et le deuxième chiffre qui m'a rassurée, c'est le fait que les visiteurs témoignaient du fait que l'exposition avait changé leur regard ou l'idée qu'ils avaient sur la photographie et la vidéo à 73%. Ils disaient que ça avait changé les choses. Donc voilà, c'est un bon point pour moi, c'est rassurant. Je ne vais pas continuer plus loin, sinon je vais prendre tout le temps. Donc je peux répondre aux questions, bien sûr. Merci.
Merci beaucoup, Christine Barthes. Merci d'avoir pris le temps de nous replonger dans cette exposition qui avait fait notre bonheur, c'est vrai, au cours de l'été 2020, quand on pouvait encore aller dans les musées et voir des expositions. On en est bien frustrés aujourd'hui.